Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dur de trouver un fil conducteur pour chacune de ces éditions cinéma. Un numéro d'équilibriste est osseux, d'autant plus que nos deux messieurs cinéma ne sont pas des amateurs. Pour la sélection de cette émission, ce début de carême, un fil rouge cependant, celui de l'innocence. La mémoire de nombreux innocents assassinés lors de ce qu'on appelle la Shoah par balle, événement tragique et mal connu de la Seconde Guerre mondiale pour les témoins de Lensdorf, film à l'affiche. Innocence de Bilbo Lyobit, personnage central de l'œuvre de Tolkien, adapté au cinéma et devenu une série culte, Le Seigneur des Anneaux. Innocence qui sauve dans le journal d'un curé de campagne, celui d'un jeune prêtre à l'âme d'enfant qui ne peut qu'absorber le noir du cœur des hommes, renvoyant ainsi à plus grand que lui. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi émission cinéma du mois, avec nos deux compères, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima, intervenant cinéma toujours pour les Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest, tous deux animateurs donc de ce ciné-parole, ciné-débat au cinéma L'ABC, cinéma d'art et d'essai à Toulouse. Bonjour Paul.
Bonjour Louis-Marie, bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Alors au programme donc de cette émission, trois films, donc je l'ai dit en introduction, je vais le redire, Les Témoins de Lensdorf, donc film à l'affiche qui va être l'objet du prochain ciné-parole. On donnera toutes les informations à la fin de chaque pause pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vous rejoignent. Deuxième film, Louis-Marie, rafraîchissez-moi la mémoire, voilà que j'ai un tour, Les Deux Tours.
Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours.
Les Deux Tours, donc le tome 2, on va dire, de la trilogie. La fameuse saga, dont certains sont des grands fans, j'imagine, y compris parmi les auditeurs. Et puis, Le Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. Voilà, film plus ancien, sorti après-guerre. Film adapté d'une œuvre de Bernanos. On commence avec Les Témoins de Lensdorf. Et comme d'habitude, on commence par écouter la bande-annonce du film. Là, on l'écoutera pas très longtemps, parce que vous avez corsé les choses, puisque cette bande-annonce est en hébreu.
Continuing the appeal against the building project in Lensdorf.
We ask that the freeze on the construction remains in effect until the grave is found.
An historian.
נחתוך לפי 1944, 45.
1945, צעדות מוות, אוסטריה, לנסדורף.
תזכור. Voilà, on va pas aller plus loin, donc il n'y avait pas que de l'hébreu, hein. Il y avait de l'anglais, mais il y a aussi de l'hébreu. Donc l'histoire, je vais introduire donc ce film qui est sorti en France ce mercredi, mais j'ai vu qu'il avait été produit précédemment, en 2017. Donc c'est l'histoire de Yoel, c'est comme ça qu'on prononce lui, Marie ?
Il me semble, oui.
Yoel, donc un historien juif orthodoxe chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Et depuis des années, il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lensdorf en Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'ici, on va dire, les autorités étaient patientes avec lui, et puis on lui donne un ultimatum, et faute de preuves tangibles sur un massacre en un lieu précis, le site va être bétonné sous une quinzaine, et donc vous disiez en préparant l'émission que c'était un thriller, voilà, une course contre la montre pour prouver la véracité de ce massacre. Louis-Marie, continuez cette courte introduction.
Et le massacre dont il parle est un massacre qu'il a recréé, mais qui est basé sur des faits réels. Hein, un massacre qui s'est passé à Rechnitz, en Autriche aussi, pas à Lensdorf, mais il a gardé tous les noms qu'on entend, toutes les références historiques sont liées à ce massacre de Rechnitz qu'il place à Lensdorf pour la commodité de son histoire. Enfin, la commodité et l'écriture de son scénario.
Et appuyé également sur les récits des vrais témoins. C'est-à-dire qu'il a utilisé dans ce film qu'il a remanié les témoignages qui permettaient d'étayer la thèse qu'il y avait bien eu massacre.
Alors racontez-nous l'histoire de ce Yoel, puisque si j'ai bien compris, j'avoue que je ne l'ai pas vu, il y a deux choses qui se jouent en même temps. Donc l'arrière-fond, c'est cette fameuse Shoah par balle. On va en parler, mais ce n'est pas le cœur de l'intrigue, Louis-Marie Soler.
C'est-à-dire qu'il y a cette histoire, vous l'avez bien souligné, Emmanuel, c'est que là maintenant, il n'a plus qu'une semaine, Yoel, pour prouver qu'il y a bien eu un massacre à cet endroit et pour trouver les restes des gens, de toutes les personnes qui ont été massacrées, dont on pense qu'ils ont été au moins 200. Donc c'est un massacre très important. Et au cours de ses recherches, puisque vous l'avez dit, Yoel est un historien juif orthodoxe qui est chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Donc, il a à sa disposition des documents auxquels il peut se référer et il va se plonger dans ces documents. Il va aller aussi en Autriche et va découvrir, en cherchant justement le lieu où s'est passé très précisément le massacre, il va découvrir quelque chose de plus intime et de quelque chose qui concerne sa mère et dont on va comprendre qu'il est basé sur un mensonge.
Il découvre aussi qu'aucun des témoins ne veut prendre la parole par crainte d'être tué. Pour eux, la guerre n'est pas finie. La haine anti-juif existe toujours et il refuse d'intervenir directement, sauf, c'est ce qui sera l'histoire du film.
Alors, sur la Shoah pour balle, on peut dire un certain nombre de choses. C'est un sujet qui est pas très connu, même si en France, il a été, on va dire, mis à jour par un prêtre catholique, Patrick Desbois. Ça vaut le coup de raconter un tout petit peu. Alors, la Shoah pour balle, donc, c'est plus d'1,5 million de Juifs qui auraient été assassinés lors de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie entre 1941 et 1944. Donc 1,5 million, c'est quand même pas rien. C'est donc une Shoah qui a précédé de peu les camps d'extermination. Et pour la petite histoire, ce Patrick Desbois donc avait un grand-père qui avait été déporté dans un camp d'extermination. Et en revenant sur le lieu d'internement de son grand-père, dans un camp Ravaruska, en Ukraine, il a découvert donc la réalité de cette Shoah par balle. Et après, il a été accompagné en fait par l'Église catholique, ou comme nommé, pour mener l'enquête et primé par... son travail a été reconnu par de nombreuses institutions juives, dont Yad Vashem. Est-ce qu'on a quand même une petite tranche d'histoire à travers ce récit? On peut comprendre ce qu'est la Shoah par balle? Ou est-ce qu'il faut être un peu averti, Louis-Marie Soler?
Non, de cette histoire tragique, de ce pan tragique de l'Holocauste, en fait, c'est pas très important de le savoir. Ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que même au moment où ils étaient acculés, en train de perdre, l'Allemagne nazie continuait à massacrer les gens. Les juifs en particulier, même s'il fallait qu'ils se replient, fallait qu'ils fuient, parce que, en fait, les recherches de Lensdorf, il a du mal à trouver donc le charnier à Lensdorf, parce que les Russes qui avançaient ont trouvé des cadavres, mais à un autre endroit, dont on comprendra pourquoi ils étaient à cet endroit-là, ceux-ci en particulier, ces 10 cadavres-là. Mais voilà, ce qui va l'amener, va induire en erreur donc Yoel dans ses recherches et qui va finalement trouver le bon endroit.
Voilà, donc précision, la Shoah par balle, pardon pour ceux qui connaîtraient mieux le sujet, j'espère ne pas dire de sottises, mais c'est à la fois lors de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie et à la fois lors du retrait des troupes nazies à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a une autre histoire à l'intérieur de ça, c'est donc Yoel, qu'est-ce qu'on peut dire? Sans trop révéler, cet homme est appelé à s'interroger sur le rôle qu'a joué sa mère pendant la Seconde Guerre et sur son identité, Paul Dimin.
Oui, alors ce qui est intéressant dans la trame, dans l'histoire du film, c'est que Yoel est un historien et il prétend à la rigueur scientifique historique. Et on lui reproche, puisque son histoire personnelle est aussi impliquée dans sa recherche historique, de plus être dans une démarche vraiment scientifique, puisqu'il essaie de protéger ou de tenir secret des choses qui lui le déplacent et le perturbent. Mais il dit non, c'est pas ma vérité que je cherche, c'est la vérité et avec rigueur. Mais en même temps, on voit qu'il est partagé. Et ce qu'on va découvrir dans le film, c'est toute l'interrogation. Est-ce qu'on peut faire de l'histoire de façon purement neutre, abstraite, objective? C'est toujours une relecture d'événements du passé à partir de documents, à partir de témoignages, et là on voit qu'il peine à réunir des témoins.
Et là, en quoi on voit que c'est une question ou une interrogation, cette objectivité de l'histoire?
Parce que il découvre des choses qui lui font déplacer son point de vue, parce qu'il travaille pour un lieu de conservation de la mémoire de la Shoah. Il découvre que lui, il est impliqué là-dedans par une histoire sur laquelle on lui a menti dans son milieu familial. Et il ne sait plus trop comment se situer ni où se situer, mais il continue quand même son enquête.
Et en fait, le film, c'est aussi... Le personnage central est évidemment Yoel, et c'est l'émancipation de cet homme par rapport à son travail, par rapport à sa religion et par rapport à sa famille.
Et alors, c'est pour ça que c'est un beau film en dehors du film. Pourquoi l'avez-vous choisi? Pourquoi c'est un beau film?
Ben justement, ce dont parlait Paul Dima à l'instant, c'est à la fois composé avec la rigueur à avoir quand on est historien et chercheur, et composé avec ce qu'on est, avec ses difficultés, ses problèmes, à vivre sa religion et à vivre avec sa famille. Et en fait, c'est pas une revanche qu'il veut, cet homme-là, pour prouver qu'il y a bien eu un massacre à Lensdorf. C'est faire un lieu de mémoire historique, mais pour avancer et pas pour prendre une revanche par rapport à des gens qui en ont massacré d'autres.
Paul Dima.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré ce dilemme dans lequel il est, parce qu'on lui a menti sur son histoire, il continue, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il il apporte la preuve scientifique qu'il y a bien eu massacre.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler du chef-d'œuvre humaniste, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, si, allez, chef-d'œuvre humaniste du mois, donc c'est la fameuse trilogie Le Seigneur des Anneaux, et donc on a choisi Les Deux Tours, on en parle tout de suite après cette première pause musicale.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec en ce vendredi de nos deux compères, avec nos deux compères cinéma, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs, centre jésuite dans le sud-ouest. J'ai oublié de donner l'information avant la pause musicale, le prochain Ciné-Parole, donc ce fameux Ciné-Club. Partenaire donc de cette émission animée par ces deux messieurs, c'est donc mardi prochain à 14h30 et à 20h30 après la projection discussion autour du film donc Les Témoins de Lensdorf dont on a parlé dans la première partie de l'émission. On va donc parler du Seigneur des Anneaux. Alors pardon pour les passionnés ou les puristes. On marche sur des œufs, on avance en tremblant, parce qu'il y en a certains qui connaissent cette œuvre sur le bout des doigts, donc certainement on ne sera pas forcément à la hauteur pour les plus passionnés. On a décidé de s'arrêter sur le deuxième film donc de la trilogie portée au cinéma par Peter Jackson, donc de ce, on va dire, ce chef-d'œuvre qui est Le Seigneur des Anneaux, écrit donc par l'écrivain britannique Tolkien, Les Deux Tours, après donc La Communauté de l'Anneau, et le troisième film étant Le Retour du Roi. Ça fait combien d'heures en tout, Marie-Soleil? Parce que le livre déjà, c'est un dictionnaire. Hein,
mais... Approximativement, ça fait 9 heures dans les versions... Qui était projeté en salle, mais il y a eu depuis des versions longues, et avec les versions longues, on doit dépasser les 12 heures.
Ce qui est beaucoup trop court pour les fans, bien sûr.
Bah, évidemment, puisqu'il n'y a nécessairement pas tout le livre, toute l'histoire.
Alors, on va écouter donc la bande-annonce des Deux Tours, deuxième film de cette trilogie portée sur les écrans.
Que font un elfe, un homme et un nain dans le Riddermark? Répondez vite!
Nous pourchassons un groupe d'Orukai qui traverse la plaine vers l'ouest. Ils ont fait prisonnier deux de nos amis.
Continuez à les chercher, mais n'ayez pas trop d'espoir. C'est peine perdue sur ces terres.
Nous sommes perdus. Je ne crois pas que Gandalf s'attendait à ce qu'on passe par là.
Il y a beaucoup de choses auxquelles il ne s'attendait pas.
Je reviens vers vous en ce moment décisif. Les forces de Sauron ont lancé leur attaque. Il utilise Saruman pour détruire votre peuple.
Ils étaient désarmés. Ils ne s'y attendaient pas.
C'est un avant-goût de la terreur que Saruman va déclencher. Vous devez vous battre.
Je ne risquerai pas une guerre ouverte.
La guerre ouverte est déjà déclarée, que vous le vouliez ou non.
Un nouveau pouvoir s'élève. Est proche.
C'est une armée constituée dans un seul but, détruire le monde des hommes.
Voilà, bande-annonce. Alors, explicite, beaucoup trop explicite pour les fans, mais ça peut déjà être du chinois pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens... Mais oui, il y en a, c'est ça qui est dingue, c'est ce que j'ai découvert en préparant cette émission. Il y a des gens qui n'ont jamais lu Le Seigneur des Anneaux, ni vu aucun film. Il y en a même un autour de ce plateau.
Oui, oui, je confirme.
Je confesse.
C'est pas grave, c'est le carême, vous aurez le droit de vous confesser. Pardon, si c'est mal pris par certains. Alors, je vais essayer de résumer. Donc, on va faire Le Seigneur des Anneaux pour les nuls. Le Seigneur des Anneaux pour les nuls, c'est l'histoire d'un jeune hobbit nommé Frodon Sacquet, personnage sympathique s'il en est, avec des pieds poilus, figure, on va dire, d'innocence.
Et grands les pieds,
qui vivent dans un pays merveilleux, le pays des hobbits. Ils sont petits et ils sont confondants. Cet homme a été choisi bien malgré lui pour aller porter l'anneau unique, donc créé par certains Sauron, qui est en fait la figure du mal, hein, comme le diable, on y reviendra. Et il est chargé d'aller porter cet anneau dans son pays, dans le pays de Sauron, pour que ce dernier soit détruit. Dans son épopée, il est accompagné par un certain nombre de personnages. Un magicien, Gandalf, voilà, Gandalf le gris et après le blanc, d'un nain, d'un elfe et d'hommes, dont le fameux roi Aragorn,
qui le deviendra.
Qui deviendra roi. Ça, c'est la présentation donc on va dire de la grande saga à gros traits. Comment vous présenteriez l'histoire, lui, Marie Soler, et si vous y arrivez, c'est promis, je vous offre une bière, même si c'est, on est alors presque un peu tôt pour l'apéritif.
À consommer avec modération, il ne faut pas oublier de le dire.
Avec modération. Comment vous nous résumeriez l'histoire des deux tours?
Alors,
vous avez un petit peu de temps, allez, je vous laisse un peu de temps quand même.
Une nouvelle guerre pour l'anneau, pour ce fameux anneau dont vous avez parlé, l'anneau unique, Couve. Et cette guerre concerne toute la Terre du Milieu, c'est là où tout se passe. Hein. Vous n'avez pas parlé du lieu, mais la Terre du Milieu où tout le monde vit, là. Où les hobbits vivent, où les nains vivent, où les hommes vivent.
Les elfes aussi
Ils sont tous là, dans différents territoires, hein, mais ils vivent tous là. Et là, sur ce territoire, il y a un endroit où il y a ces deux tours, donc, qui ont pour nom Hortan, qui est Barad Dûr, et avec leurs maîtres respectifs, chacune de ces deux tours a un maître, qui s'unissent tous deux pour que leurs ombres, sont leurs âmes damnées, leurs hommes de main, s'étendent sur le monde des hommes. Hein, alors l'ombre au sens figuré et au sens propre du terme. Vous suivez?
Ça va, jusque-là, je suis.
Jusque-là, c'est bon.
L'avantage, alors, c'est que moi, je connais un peu, mais on va dire que quand Paul lève les bras, ça veut dire qu'on décroche.
Ils veulent prendre la main sur la Terre du Milieu, et sur les hommes en particulier.
Et les détruire.
Et les détruire.
Et tous.
Pendant ce temps-là, il y a la communauté de l'anneau dont vous avez parlé au début, qui était composée, comme vous l'avez dit, d'elfes, d'un elfe, d'un nain, d'un homme. On ne va pas revenir sur la composition de la communauté de l'anneau, mais elle a éclaté, elle est dissoute. D'un côté, il y a Frodon et son ami Sam qui sont porteurs de l'anneau et qui vont essayer de l'amener donc au Mordor pour le détruire.
Mordor étant le pays de Sauron, c'est ça?
Exactement. Hein, et de l'autre, il y a l'homme, donc Aragorn, le nain qui s'appelle Gimli et l'elfe Legolas sont à la poursuite de méchants qu'on appelle des orques qui ont kidnappé deux hobbits.
Méchants effrayants. Hein.
Et méchants très effrayants, hein, des orques, ça s'appelle des orques, et c'est affreux. Donc ils sont à la poursuite de ces hommes-là. Donc voilà, on va suivre dans la première partie du film les mouvements de ces deux groupes distincts. Dans un de ces deux groupes, on va découvrir un personnage extraordinaire, à tous les points de vue, qui va marquer à la fois les deux tours, puis le retour du roi,
Gollum. Personnage...
My Precious.
Étrange.
Mon précieux.
My Precious, ouais.
Qui était à l'origine un hobbit, qui s'appelait Sméagol.
Et qui s'est laissé gagner par les pouvoirs de l'anneau.
De l'anneau.
Ça va, Paul, vous suivez là ou pas?
Oui, très bien.
Vous levez les bras, vous n'oubliez pas. Hein.
Et donc lui... va promettre donc à promis à Frodon et son ami Sam de les conduire à la porte, c'est la porte noire, je crois, qui amène au Mordor, tandis que les autres donc poursuivent les ravisseurs des deux amis hobbits. Et dans leur course, ils vont tomber sur ces tours qui vont les amener à se battre, à combattre. Et après cette première partie, le climax du film, dont je vous laisserai le soin d'expliquer ce que ça signifie, Paul, le climax du film, c'est une bataille épique qui va opposer les hommes et leurs alliés à
tous ces démons, quelque part, démons qui ont été créés par...
Par les seigneurs des tours, puis le
par ces magiciens maléfiques, voilà. On va dire. Donc c'est la bataille du gouffre de Helm. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Bravo pour le résumé, vous avez gagné votre bière. Donc en tout cas, on l'a bien compris, le Seigneur des Anneaux, il faut rentrer dedans, on y rentre ou pas. Mais quand on y rentre, on découvre donc un monde mythologique qui a été entièrement composé par cet homme. Il y a même des dictionnaires sur ce monde mythologique, il y a des clubs aux quatre coins du monde, et particulièrement en Angleterre. Tolkien, donc grand écrivain anglais, professeur à Oxford, qui au sortir de la Première Guerre mondiale décide donc de créer un monde mythologique pour l'Angleterre, rien que ça, qui serait donc un moyen littéraire extrêmement efficace pour transmettre les valeurs fondamentales aux jeunes générations. On va en parler davantage. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Peter Jackson? J'ai vu que c'est quand même, je sais pas si c'est un des plus grands cartons de l'histoire du cinéma, mais en tout cas, film le plus rentable de l'année 2003 quand il est sorti. 42 millions de dollars l'espace des premiers jours de sortie, si j'ai bien compris.
Et c'est aussi un des rares films à avoir été nommé 11 fois aux Oscars, pardon, et qui a obtenu les 11 statuettes.
Les 11 statuettes.
Les 11 statuettes pour lesquelles il était nommé, il a obtenu l'Oscar pour chacune des nominations. C'est rare pour être souligné.
Alors, Le Seigneur des Anneaux, est-ce que ça fait partie des grands classiques Louis-Marie, et si oui, pourquoi ?
Maintenant, on peut le dire, par le côté gigantesque...
Pas que pour les ados. Hein.
Non, mais c'est par le côté gigantesque de la production, le tournage. Il faut dire que c'est
paysages,
là aussi...
paysages fantastiques.
La force de Peter Jackson, c'est qu'il savait qu'il ferait une suite. C'est-à-dire qu'on aurait pu, attendre le succès du premier pour faire un second volet, puis un troisième. Non, il a décidé de faire les trois en même temps. Ce qui confère à sa trilogie cette homogénéité et le fait que les personnages et les acteurs qui les incarnent vieillissent à la vitesse à laquelle on les voit vieillir dans le film. Si on veut faire une comparaison avec des personnages qu'on retrouve et qui a été difficile à tenir à cause du fait que c'était aussi une adaptation littéraire et qu'ils vieillissaient d'un an, c'est les personnages d'Harry Potter. Harry Potter, ils étaient censés vieillir d'un an à chaque fois parce que c'était une nouvelle année scolaire. Et les films sont sortis à 3-4 ans d'intervalle et se sont succédés sur 10 ans, ce qui faisait que les personnages vieillissaient plus vite. Enfin, ils étaient plus vieux plus vite.
Donc tourné en Nouvelle-Zélande essentiellement, c'est ça ?
En Nouvelle-Zélande, en Irlande aussi, il y a beaucoup d'endroits qui ont été...
Ça a dû vous plaire ces paysages, non, vous qui êtes un fan de l'Écosse ?
C'est magnifique. Peter Jackson étant néo-zélandais, il a fait les repérages chez lui, mais il ne s'est pas contenté de ça. Et Peter Jackson est un grand réalisateur qui a fait d'autres films que ça. Il a revisité le mythe de King Kong aussi. De façon assez adroite, alors plus extraordinaire, puisqu'on voit ce que ça a donné avec Le Seigneur des Anneaux. Alors imaginez King Kong devant la caméra de Peter Jackson. Et puis il a fait d'autres films plus confidentiels, enfin, quand je dis confidentiels, qui sont moins des super productions, mais qui sont tout aussi intéressants à voir. Il a une belle filmographie, Peter Jackson.
Voilà, donc en tout cas, Le Seigneur des Anneaux et Les Deux Tours, qui parlent au cœur de nombre de jeunes garçons et d'hommes, voilà, comme une métaphore du combat qui se jouerait aussi dans nos vies. On va écouter un deuxième extrait, il faut peut-être l'introduire. C'est quand les arbres, parce que dans ce livre, même les arbres sont vivants. Les arbres, on va dire, ruinent les plans de ce fameux magicien Sauron. Et donc
Son âme d'année, mais
Saruman.
Il est un peu moins fort que Sauron. Sauron est le plus fort de tous.
Voilà, et en tout cas, donc, homme, elfe, magicien se retrouve au pied d'une tour gigantesque et un dialogue s'ensuit avec cette âme damnée, comme vous dites, du mal par excellence.
Jeune maître Gandalf, je me réjouis de votre venue. Le bois et l'eau, les troncs et la pierre, je peux en venir à bout, mais il y a un magicien à mater ici. Enfermé dans sa tour.
Montrez-vous.
Prudence. Même vaincu, Saruman est dangereux.
Alors réglons-lui son compte et qu'on en finisse.
Non.
Vous avez mené bien des guerres et tué nombre d'hommes, roi Théoden. Et vous avez tout de même fait la paix ensuite. Ne pouvons-nous tenir conseil comme nous l'avons fait jadis, mon vieil ami ? Ne pouvons-nous faire la paix, vous et moi ?
Nous ferons la paix.
Oui, nous ferons la paix. Lorsque vous répondrez de l'embrasement de l'Westfold et des enfants qui gisent sans vie. Nous ferons la paix lorsque les vies des soldats dont les corps furent dépecés devant les portes de Fort-le-Corps alors qu'ils étaient morts seront vengés.
Lorsque vous pendrez un gibet pour le plaisir de vos propres corbeaux. Là, nous serons en paix.
Des gibets et des corbeaux. Vieux rat d'auteur. Que voulez-vous, Gandalf le Gris ? Laissez-moi deviner. La clé d'Hortanque, ou peut-être même les clés de Barad-dûr, avec les couronnes des sept rois et les baguettes des cinq magiciens ?
Votre traîtrise a déjà coûté de nombreuses vies, et des milliers sont encore en péril. Mais vous pouvez les sauver, Saruman, car vous étiez dans les secrets de l'ennemi.
Alors vous êtes venu quérir des informations. J'en ai pour vous. Quelque chose gronde en terre du milieu. Quelque chose que vous avez omis de voir. Mais le grand œil l'a vu, lui. Même maintenant, il met à profit cet avantage. Il attaquera très bientôt. Vous allez tous mourir.
Voilà, donc c'est un extrait donc de un de ces moments clés donc de cette deuxième de ce deuxième volet donc de cette saga, les deux tours, je vais y arriver.
Saruman a été vaincu.
Saruman a été vaincu, mais le mal est toujours actif. Alors ça vaut le coup quand même pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas d'expliquer en quoi cette œuvre est singulière, parce que d'aucuns peuvent la comparer à la grande saga d'Harry Potter, mais bien des puristes vous expliqueront qu'il en est tout à fait autrement. Figurez-vous, Paul, et peut-être cela va-t-il vous donner envie un jour de lire les livres ou de regarder les films dans leur version courte, qu'il y a même au Collège des Bernardins un chargé d'enseignement sur Tolkien, un certain Michael Deveau, voyez. Il dit la chose suivante dans un article du journal La Vie: Tolkien n'a pas abrogé les légendes et les contes, mais les a consacrés. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'évangile, le mythe et la réalité se sont rejoints. Dieu lui-même a utilisé le conte pour se raconter aux hommes. Et toute l'entreprise de Tolkien, et c'est comme ça en tout cas qu'il l'a présenté, il considère que le conte est comme la fonction la plus élevée de l'art. Et en créant cet univers mythologique et ce conte, il y avait derrière l'intention de faire une œuvre apologétique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être à propos de l'œuvre apologétique ? Juste une ou deux choses. Puisque vous me laissez parler cette fois
mais
plus
oui,
que d'habitude,
oui,
n'est-ce pas ?
Nous sommes suspendus à vos lèvres.
Voilà, je me permets, hein, pardon, de suppléer au manque d'intérêt de Paul pour ce film. Mais Le Hobbit, c'est quand même la figure de ce jeune, on va dire, la figure de l'innocence. Hein, les Hobbits, ils savent pas mentir, ils savent pas être mauvais, ils ont beaucoup de mal.
Ils se battent pas, jamais.
Ils se battent pas, et c'est ce qui fait au final que peut-être, même on va pas déflorer, mais que les choses risquent de se finir bien. Donc c'est l'innocence qui sauve, la pureté de cœur. Et puis, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans ce second volet. Il y a quelques parallèles aussi avec la passion. Donc la passion du Christ, s'entendant par là que pour se sauver la situation, eh bien chacun doit être prêt à se sacrifier. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de très viril, de très chevaleresque. Vous pouvez peut-être
Ils doivent se sacrifier et sans vraiment savoir pourquoi et à quoi ça va servir. C'est ça là aussi le grand intérêt de l'histoire et de ce que porte ce film. C'est que ces personnages ont une quête à mener, ils connaissent, mais ils ont des choses à faire. Et à certains moments, confrontés à ces choses-là, ils se demandent, bon, mais il faut les faire, alors que tout est en train de s'écrouler autour d'eux. Hein. Ils ne sont même pas sûrs que l'endroit où ils vivent sera encore debout après ça. Mais ils avancent, ils continuent et ils doivent faire. Ils savent qu'il y a quelque chose.
Et ils combattent en eux-mêmes aussi, en tout cas,
oui,
les hommes.
Oui, bien sûr.
Les hommes, les nains, qu'on combatte beaucoup intérieurement, voilà, ils doivent donner leur vie, en fait, pour ceux qu'ils aiment, et puis pour ce mystère.
Exactement.
Voilà, cet anneau qui est la figure, en fait, du combat et du mal, et pour en espérant le triomphe du bien. Paul Dima, je sens que là, vous avez... Aïe,
j'entends
un commentaire.
Oui, j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, et ça rejoint le sens premier du mot légende, legenda, ce qui est à lire, c'est-à-dire que, et pour nous cartésiens, ou esprit rationaliste, on dit, c'est une histoire ou c'est vrai ? C'est vrai parce que c'est une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans la lecture du mythe comme ce qu'il faut entendre de ce qui est dit. C'est-à-dire que, pas prendre au premier degré, mais ce degré introduit dans quelque chose qu'on ne peut pas dire autrement. Et les mythes de toutes les cultures, de toutes les civilisations, y compris dans la Bible, le mythe de la création, c'est ce qu'il faut entendre de ce que dit le récit. C'est pas la création du monde en 7 jours ou la création d'un dieu potier. Mais par ces figures-là, il y a quelque chose à entendre.
Voilà, et en tout cas, je sais que nombre de prêtres s'en servent en pastorale parce que c'est une manière aussi de faire entrer les jeunes dans ce qui se joue de manière invisible, peut-être au cœur justement de notre réalité, une histoire à l'intérieur de l'histoire. On va faire une deuxième pause et puis on va parler de notre chef-d'œuvre spirituel du mois, même si Le Seigneur des Anneaux est à la frontière des deux, donc le journal d'un curé de campagne de Robert Bresson.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Troisième film de cette émission, toujours avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence le mercredi à 19h, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Pays Centre Jésuites dans le Sud-Ouest, tous deux animateurs de Ciné-Parole, ce ciné-débat mensuel au cinéma L'ABC à Toulouse. Troisième film, donc, Le journal d'un curé de campagne de Robert Bresson, œuvre sortie en 1951, adaptée donc d'un roman homonyme de Georges Bernanos, grand écrivain français, publié lui en 1936. On va écouter tout de suite la bande-annonce.
Promis de faire, c'est aujourd'hui même. Demain, il sera trop tard.
L'Église s'en moque que vous soyez aimé, mon garçon. Soyez d'abord respecté, obéi.
N'avez-vous aucune crainte de Dieu?
Je le tuerai, ou je me tuerai.
Je ne fermerai ma porte à personne aussi longtemps que je serai curé de cette paroisse.
Elle prétend que sa mère a résisté jusqu'au bout.
Le paroissien vous occupe beaucoup, monsieur le curé. Une paroisse pourtant si petite.
En quoi me suis-je trompé?
Tu t'agites trop. Tu as l'air d'un frelon dans une bouteille.
Je ne crois rien faire de mal en notant ici, au jour le jour, avec une franchise absolue, les très humbles, les insignifiants secrets d'une vie d'ailleurs sans mystère.
Voilà pour la bande-annonce. Donc, si j'ai bien compris, à force de parler de vieux films, cette fois, la bande-annonce était assez claire pour cette époque.
Ah, elle était parfaite.
Voilà, elle était parfaite. L'histoire, donc, c'est un jeune curé d'Ambricourt, qui se retrouve dans une campagne et dans une petite paroisse, qui écrit un journal intime sur les difficultés qu'il rencontre à se faire accepter par les paroissiens de cette campagne. C'est un peu un film aussi sur la déprime d'un prêtre et la rudesse du sacerdoce. Je pense que les gens qui connaissent des prêtres peuvent aussi se reconnaître parfois dans certaines de ces difficultés. Et puis, pour continuer d'introduire, et je vous laisserai faire le reste, l'intrigue se joue particulièrement autour d'une famille de nobles. L'histoire de cette famille, histoire torturée, et la relation qui va se nouer entre ce jeune abbé et la comtesse de ce lieu, Louis-Marie, puisque à chaque fois c'est vous qui introduisez l'histoire, qu'est-ce que vous ajouteriez sans trop déflorer ce film ?
C'est là où on retrouve toute la maîtrise de Bresson et ce qui a fait que Bresson était un grand cinéaste et qu'il a laissé une œuvre puissante, c'est qu'il arrive à tirer de ce roman fort quelque chose d'aussi fort tout en faisant du cinéma. C'était un triptyque au départ, le livre de Bernanos, l'arrivée, l'installation, puis la mort du curé. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'histoire en filigrane. Mais ce qui est encore plus fort, chez Bresson, c'est son sens du montage, les scènes très courtes et en fait l'utilisation qu'il fait de la voix off. Parce que ce qu'on entend dans le film, dans les dialogues, ce qui est plus fort, c'est la voix off, les réflexions.
On est comme dans la tête de ce jeune curé.
Du jeune curé de campagne, ou les quelques réflexions d'autres personnages secondaires d'importance. Et c'est ça, ce pauvre cahier d'écolier sur lequel... Parce que c'est un cahier d'écolier, sur le journal d'un curé de campagne, c'est ça. Et ce malheur que traverse ce jeune curé, c'est qu'il croit, parce qu'il vient pour faire le bien, et il est mal accueilli. Et ça le désarme.
Plus que mal accueilli, oui.
Ça le désarme.
Ça le désarme, et il va finir par désarmer après les autres. Paul, qu'est-ce que vous diriez comme mot d'introduction avant qu'on écoute un autre extrait ?
Oui, pour revenir sur la force de ce film et sa composition, Louis-Marie le disait très bien, de courtes séquences avec des fondus au noir et cette voix off, alors qui n'est pas là pour commenter ce qui s'est passé ou pour annoncer la suite, mais qui est la réflexion intérieure à laquelle on participe comme spectateur, et on chemine avec ce prêtre, ses interrogations, ses difficultés. Lui qui est tout à fait démuni face à la puissance, eh bien, ça va être aussi sa force, mais sa force dans la fragilité, et c'est très beau. François Truffaut disait que c'était la plus intelligente utilisation de la voix off dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que c'est pas une voix off qui raconte, qui en rajoute, mais qui fait descendre dans une intelligence profonde de ce qui se joue à l'intérieur du personnage.
Il arrive même, par moments, qu'elle se superpose oui. au dialogue.
Oui. Et bien justement, on va écouter un extrait. Je crois qu'il y a dans cet extrait, il y a cela. C'est un face-à-face donc, avec la
comtesse.
La comtesse. Autour de cette famille, comme je le disais, se noue peut-être le cœur de l'intrigue. On écoute ce face-à-face avec cette femme.
Dieu m'a pris mon fils. Que peut-il à présent contre moi ? Je ne le crains plus.
Dieu l'a éloigné de vous pour un temps. Et votre dureté...
Taisez-vous.
Non, je ne me tairai pas. La dureté de votre cœur peut vous séparer de lui pour toujours.
Vous blasphémez. Dieu ne se venge pas.
Il ne se venge pas. Ce sont des mots humains. Ils n'ont de sens que pour vous.
Mon fils me haïrait peut-être ?
Vous ne vous haïrez pas. Vous ne vous connaîtrez plus.
Il n'y a pas de faute qui puisse légitimer cela. Ce sont des folies, de pures folies, des rêves malsains.
Vous êtes un rusé.
Le dos appuyé au mur, devant cette femme impérieuse, j'avais l'air d'un coupable essayant vainement de se justifier. Peut-être étais-je cela en effet.
M'avez-vous entendu ? M'avez-vous comprise ?
Non, madame, je ne vous ai pas entendu.
Reposez-vous, vous n'êtes pas en état de faire 10 pas. Je suis plus forte que vous. Je vous disais qu'aucune faute au monde ne pourrait légitimer cela. Ce sont des rêveries.
Rien ne peut nous séparer, dans ce monde ou dans l'autre, de ce que nous avons aimé plus que nous-mêmes, plus que la vie, plus que le salut. L'amour est plus fort que la mort, ça est écrit dans vos livres.
Ce n'est pas nous qui avons inventé l'amour. Il a son ordre, il a sa loi.
Dieu en est le maître.
Il n'est pas le maître de l'amour. Il est l'amour même.
Voilà, magnifique dialogue donc entre cette comtesse et ce jeune prêtre. Ce jeune prêtre qui, presque malgré lui, même si on voit qu'il a beaucoup en fait de force d'âme, hein, on voit dans ce dialogue, et puis évidemment une juste théologie aussi, mais presque malgré lui, d'ailleurs je crois que c'est ce qu'on lui renvoie un moment dans le film, l'un de ses supérieurs, qui est à la fois un peu navré de ce jeune prêtre gauche et malade aussi, il faut le dire. Gravement malade et en même temps touché, qui lui dit, je crois, quelque chose comme « En fait, malgré toi, tu déranges ». Voilà, c'est sa clarté, non ? Sa pureté de cœur aussi qui dérange, Paul ?
Oui, alors, souvent ce jeune prêtre vient trouver conseil auprès de ce prêtre aîné qu'il prend pour maître, qui le rudoie un peu, mais on sent qu'il a une grande estime pour lui, pour ce jeune qui est là, qui ne sait pas bien s'y prendre à ses yeux, qui sait pas, mais dont il reconnaît qu'il fait une œuvre qui dépasse ce que pourraient faire d'autres. Et donc il y a une espèce de rudoiement, mais presque paternel vis-à-vis d'un fils, mais dont il reconnaît que malgré sa gaucherie, malgré sa faiblesse, eh ben, il réalise des choses que lui seul peut faire. Et alors, dans le dialogue avec cette comtesse, elle a perdu son fils, hein, elle a perdu un enfant. Son mari la trompe éhontément.
Depuis, pas qu'une fois,
semble-t-il. Et elle le sait. Et sa fille aînée lui en veut à mort d'accepter cette situation-là. Donc, c'est une comtesse qui se blinde vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa fille, mais elle est assiégée de partout, et donc elle doit être forte pour tenir debout, mais elle n'accepte pas de se rendre. Et il, dans le dialogue là qu'on vient d'entendre, le prêtre va l'inviter, tout faible qu'il est, à abandonner son bras de fer avec Dieu. Et il va l'ouvrir. J'allais dire convertir, c'est Dieu qui convertit, il va l'ouvrir à quelque chose à accepter pour se réconcilier avec elle-même, avec son histoire, et pas être dans la crispation et dans des comptes à régler avec tous et avec Dieu.
On va pas déflorer complètement l'histoire, on va pas raconter la suite de l'histoire, mais on va juste passer un extrait qui parle de la fin, voilà, comme ça il y aura quand même encore un peu de mystère, et puis on finira cette émission par un commentaire de cet autre magnifique passage. C'est donc une voix off à nouveau, mais qui n'est plus cette fois du jeune curé. On nous voit une croix à la fin du film, et où il est raconté la fin de ce jeune abbé à qui on découvre un cancer à la fin du film.
Vers 4 heures, ne pouvant dormir, je suis allé jusqu'à sa chambre et j'ai trouvé mon malheureux camarade étendu à terre sans connaissance. Nous l'avons transporté sur son lit. Il a rendu aussitôt des flots de sang. Cependant, l'hémorragie a cessé. Tandis que j'attendais le médecin, notre pauvre ami a repris connaissance, mais il ne parlait pas. Épaisses gouttes de sueur coulaient de son front, de ses joues, et son visage semblait exprimer une grande angoisse. J'ai constaté que son pouls s'affaiblissait très vite. L'agonisant m'a fait comprendre par signe qu'il désirait son chapelet que j'ai pris dans la poche de sa culotte et qu'il a tenu dès lors serré sur sa poitrine. Puis il a paru retrouver des forces et d'une voix presque inintelligible m'a prié de l'absoudre. Son visage était plus calme. Il a même souri. L'humanité ni l'amitié ne me permettant un refus, tout en m'acquittant de mon devoir, j'ai voulu exprimer à mon infortuné camarade les scrupules que j'avais de me rendre à ce désir. Il n'a pas paru m'entendre. Mais quelques instants plus tard, sa main s'est posée sur la mienne, tandis que son regard me faisait nettement signe d'approcher mon oreille de sa bouche. Il a prononcé alors distinctement, bien qu'avec une extrême lenteur, ces mots que je suis sûr de rapporter très exactement. Qu'est-ce que cela fait ? Tout est grâce. Je crois qu'il est mort presque aussitôt.
Voilà, c'est sûr que quand on voit ce type de film et qu'on entend de tels dialogues, alors certains vont bondir et vont hurler, d'autres films ou d'autres œuvres peuvent paraître plus pâles. Voilà, c'est en tout cas c'est un dialogue splendide. Comparaison n'est pas raison, mais c'est pas grave, la faute est commise. Que dire sur cette chute ? Moi, la manière dont je voudrais vous introduire, c'est que il me semble aussi que ce film est un film aussi sur le combat spirituel. Je pense qu'on peut en parler à l'occasion de ce carême. Ce prêtre que certains regardent comme un faible, presque un ivrogne, d'autres le regardent un peu comme un fou. Et ce prêtre qui fait le bien malgré tout, presque malgré lui, mais pas sans combat, sans souffrance. Il a aussi des nuits, il a des doutes, il ne s'en cache pas. Voilà, on dit souvent « Dieu se glorifie dans la faiblesse ». Est-ce que c'est ce qu'on peut lire, entre autres, de cette scène finale, Paul Dima ?
Oui, tout à fait. Et là, il va au bas du bas, si j'ose dire. C'est-à-dire quand il va voir le médecin à Lille, et il est complètement désemparé parce qu'il vient d'apprendre, il est condamné, il a un cancer. Il est né alcoolique, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il buvait, mais parce que sa mère buvait. Et on le prend toute sa vie pour un ivrogne, mais parce qu'il porte la maladie alcoolique en lui. Et donc ce prêtre-là, de descente en descente vers le plus bas, dirait un théologien comme Maurice Bellet, il finit sa vie chez un ami de séminaire qui est, on disait à l'époque, défroqué, et qui vit avec une femme sans être marié. Et il va lui demander, à lui, parce qu'il est en train de mourir, de le bénir. Donc cet ami, on l'a entendu dans le récit qu'il fait de la mort de ce jeune prêtre, dit qu'il a eu des scrupules à faire ça, mais il a accédé à sa demande et il l'a béni. Et le jeune prêtre a dit « Qu'est-ce que ça fait ? Tout est grâce. » C'est-à-dire que c'est au plus bas de terre et au plus bas de son cheminement et de son combat spirituel qu'il accepte d'ouvrir sa vie, son existence à Dieu qui le bénit à travers les mains de ce ex-prêtre qui n'est pas du tout dans la norme de ce qu'il faut.
Louis-Marie Soler, qu'est-ce que vous diriez ? Pourquoi ce chef-d'œuvre pour vous ?
Ben, ne serait-ce qu'en parlant de cette dernière séquence dont Paul a fait une magnifique analyse, c'est la force de Bresson, c'est que ce qu'on entend là, c'est pratiquement ce qu'on voit à l'écran, parce qu'on ne le voit pas, le prêtre mourir. On entend juste ce témoignage de cet homme qui est resté son ami. On l'entend parler et on va, encore une fois, partir dans un fondu au noir. Cet homme qui était malade, qui a faibli physiquement, qui a été rejeté par le village. Le monde des hommes le rejette aussi. Et en fait, cette lente rupture donc avec le monde des hommes, c'est ce qui va le sauver finalement. C'est en quelque sorte ce monde et il sera sauvé, l'humanité est là quoi.
Eh ben merci beaucoup d'être venu ce matin de parler de ces trois films. Donc le premier, Les Témoins de Lensdorf, donc à l'écran, et donc objet du prochain Ciné-Parole, mardi prochain, mardi 19 mars, 14h30 et 20h30. L'après-midi, vous retrouvez Paul Dima et le soir, Louis-Marie Soler. Et puis nous, à la fin, on fait les comptes, comme ça on voit qui vous préférez. Hein. C'est ce qu'on fait à chaque fois,
c'est
non ?
C'est ce qu'on fait chaque fois.
Ouais. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.